Bonjour, aujourd'hui en rediffusion, une émission qui remonte au 24 mai 2008 et que vous pouvez entendre ou réentendre. Le titre en est « La peste de l'animal aux humains, est-ce un inquiétant précédent ?»
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
En une lente et longue procession, les fidèles montent à Notre-Dame de Fourvière. En 1643, pour la quatrième fois en un siècle, la peste ravageait Lyon. Les échevins promirent alors à la Vierge, si elle sauvait la cité, d'accomplir chaque année le pèlerinage de Fourvière. La peste disparut à jamais.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Mon invité ce matin est Frédéric Audouin-Rouzeau, chercheur au CNRS et qui est experte en archéozoologie, un beau mot poétique et savant qui désigne la science de l'histoire des animaux sur la longue durée, en particulier dans leur relation avec les humains. Elle vient de republier, sous le titre « Les chemins de la peste », un beau livre consacré aux relations sulfureuses qui se sont établies depuis l'Antiquité entre l'homme, le rat et la puce, aux grandes dames en particulier, du premier des trois. Car c'est à leur rencontre qu'ont prospéré depuis des siècles les terribles épidémies de la peste qui ont successivement ravagé la planète. Ce qui ne pose pas seulement la question d'une possible résurgence, car la peste n'est nullement éradiquée, contrairement à ce qu'on croit souvent, mais aussi plus largement du passage d'autres maladies des animaux aux humains. Et bien sûr, nous passons spontanément à la grippe aviaire, dont on nous dit que les savants du monde entier redoutent qu'elle ne se répande à son tour si le virus franchit le pas qui sépare les volailles de notre espèce. Ils redoutent d'épizooties en épidémie, de redoutables catastrophes. Des catastrophes contre lesquelles d'ores et déjà les pouvoirs publics s'efforcent de protéger à l'avance les populations à toutes fins utiles. Voilà bien qui appelle, pour nous rassurer peut-être, pour nous éclairer en tout cas, un retour en arrière que j'espère à la fois lucide et de sang-froid. Et d'abord La Fontaine.
Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant plus de joie.
Frédéric Audouin-Rouzeau, bonjour.
Bonjour.
Je suis heureux de vous accueillir et nous avons entendu les animaux malades de la peste, ou plutôt le début de la fable de La Fontaine, interprété par Georges Chamarat, sociétaire de la Comédie Française, en 1968. Il m'a semblé que ce coup d'archet n'était pas mal approprié.
D'autant que La Fontaine, bon, comme d'habitude, avec son esprit juste et très concis, dit quelque chose de fondamental, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, qui est un des vers les plus connus d'ailleurs. Mais ce « puisqu'il faut l'appeler par son nom », on n'a jamais osé l'appeler par son nom. Ça fait tellement peur aux populations qu'on n'osait pas dire son nom, de peur même de l'attirer en la nommant. Et donc on l'appelait, on tournait autour du nom pour pas nommer l'indicible. Donc on disait le mal s'est abattu sur la ville, la calamité reprend, la fièvre a ressurgi, etc. Et ça c'est extraordinaire, je trouve, dans ce poème, et aussi la manière dont le ciel en sa fureur, c'est-à-dire la manière dont évidemment on a toujours non pas mis la faute sur Dieu, mais mis la faute sur les hommes, envoyé par Dieu, et cette interprétation dont a usé et abusé l'Église pour tenir ses ouailles tranquilles, parce que pendant les temps de peste, il ne s'agissait plus de penser à la révolution ou à se rebeller. Tout le monde plongeait les hommes dans la terreur et la culpabilité.
Instrumentalisation par les religions.
Absolument, qu'on retrouve toujours aujourd'hui. C'est de votre faute, c'est de votre faute. Donc chacun cherchait le mal. Les gens, du coup, donnaient le maximum de leur argent à l'Église en espérant qu'ils échapperaient de sorte à la maladie, à l'Église, à Dieu, à l'Église. Donc l'Église faisait fort grand profit à l'époque de ces épidémies, même si, bien sûr, beaucoup de curés allaient au chevet des malades. Il en est mort beaucoup, mais beaucoup fuyaient aussi.
Nous en verrons un cas tout à l'heure.
Et donc, c'est le problème de l'idée de Dieu, à laquelle tout le monde croyait, parce qu'on n'avait pas d'autre, a bloqué la recherche scientifique, la question de pourquoi la peste, d'où elle vient, pendant des siècles. C'est le plus grand frein que cette idée de la responsabilité de Dieu à la question scientifique de la résolution.
Il y a cet autre vers célèbre, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés, ce qui veut dire que cela touche et concerne l'ensemble de la communauté des hommes.
La totalité, en réalité, tous n'étaient pas frappés. Une partie de la population, tous les pauvres étaient à peu près exposés et frappés. En revanche, les populations les plus riches, les plus abritées, comme pour beaucoup de maladies, d'épidémies, étaient épargnées. On peut penser à peu près que moitié de la population était frappée et sur cette moitié, 70% mouraient.
Toutes les dimensions de ce phénomène formidable qu'a constitué la peste étant d'entrée de jeu posée, je me dois peut-être à nos auditeurs de dire que Frédéric Audouin Rousseau est aussi Fred Vargas. Vous m'avez autorisé à passer ce cap entre les deux aspects de votre personnalité. Vous êtes parmi notre collectivité d'historiens, une des seules qui a su, qui a osé et avec quel talent franchir le pas entre une œuvre scientifique considérée comme telle, saluée comme telle, et d'autre part, une œuvre romanesque. Et même si vous tenez à mettre une distance entre ces deux aspects de votre personnalité, néanmoins, quand on vous lit, quand on lit votre livre savant Les chemins de la peste, et quand on lit vos œuvres, par exemple, Pars vite et reviens tard, ce livre de 2001, ce roman de 2001 qui est très, très profondément marqué par votre compétence d'archéozoologue,
oui,
on ne peut pas faire complètement le départ entre Fred Vargas et Frédéric Audouin Rousseau.
Mais c'est pas du tout la même manière de réfléchir ou de travailler, de procéder entre un roman policier et une recherche scientifique. C'est même pas la même manière d'écrire. C'est pas le même suspense. Il y en a un dans les deux cas. Et on m'a souvent interrogé sur pourquoi vous faites les deux. Je sais pas si on prend, on en parlera sûrement, le grand médecin auquel je ne me compare pas, Alexandre Yersin. Il avait probablement des distractions parallèles. Peut-être qu'il allait pêcher, peut-être qu'il allait écouter de la musique, et je trouve qu'il n'y a rien de ni de rare ni d'exceptionnel à écrire des romans aux policiers pendant les vacances.
Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si vous écrivez seulement pendant vos vacances, mais j'en reviens à Frédéric Audouin Rousseau, c'est-à-dire l'historienne qui nous offre cette étude si précieuse sur la peste. Peut-être pouvez-vous nous rappeler depuis quand on peut considérer que la peste ravage la planète. Jusqu'où peut-on reculer dans la connaissance de ce fléau?
La première trace, bon, on manque d'archives très anciennes. C'est très difficile parce qu'au début, tant qu'on n'a pas une description claire des symptômes, c'est très difficile de la repérer. On pense qu'il y a eu des épidémies anciennes en Asie avant Jésus-Christ, mais c'est toujours décrit comme des pestilence, des fièvres, donc c'est assez difficile de la repérer,
le diagnostic rétrospectif
très compliqué, mais la première fois il semble qu'on soit bel et bien en face d'une peste sans certitude, c'est au 3e siècle avant Jésus-Christ, vers notre Méditerranée, et puis
Justinienne.
C'est la première grande pandémie, alors celle-là on est absolument sûr. Ensuite, avec certitude, quand elle arrive, elle démarre avant vers l'Est, elle arrive à Marseille en 543, où elle a été décrite avec précision par Grégoire de Tours, et c'est le début pour deux siècles de la très grande peste justinienne du haut Moyen-Âge. Cette première pandémie, elle est assez mal connue, on retient surtout la grande pandémie médiévale d'après, mais celle du haut Moyen-Âge a quand même été suffisamment puissante pour ravager pendant deux siècles la Méditerranée, ce qui explique qu'en fait, à partir du 8e siècle, cette région d'Europe est exsangue et que le commerce passe du coup au nord. aux Flandres.
C'est un élément du déclin de la Méditerranée.
Exactement.
Notamment parce que les ports
les
sont
ports étaient ruinés,
particulièrement ravagés.
Et
par
c'est
par...
comme ça que la Hanse, en fait, que tout, enfin ça rien, enfin si la peste finalement a lancé la grande puissance de l'Europe du Nord. Jusqu'au XVe siècle.
Quelle différence faut-il faire entre l'épidémie et la pandémie?
Pas grand-chose, sauf que, par exemple, si en France on a une épidémie d'une maladie X et que ça ne sort pas de la France, on va appeler ça une épidémie. Si c'est mondial, on va appeler ça une pandémie.
Vous évoquez la peste majeure qui a marqué si fort, si profondément, si dramatiquement la fin du Moyen-Âge. C'est celle de 1348, avant et après.
1348.
Qui culmine.
Elle commence en 1348, pour ce qui est de l'Europe, et elle se termine quand même en 1771, sans s'être jamais arrêtée, à Moscou, et même 1799 dans l'armée d'Égypte de Bonaparte, où elle frappe ses derniers coups. Donc c'est une peste qui dure pendant 4 siècles.
Enfin, l'apogée, si je puis dire, de la peste, le plus dramatique, c'est tout de même à la mi-temps du XIVe siècle.
C'est à la mi-temps, c'est quand elle arrive, elle est dramatique entre 1348 et 1352, où là, pendant 5 ans, elle traverse toute l'Europe, elle arrive jusqu'à Moscou très vite. Mais ensuite, elle n'a jamais lâché l'Europe. Tous les 10 ans, ça recommençait, ça allait dans une ville, dans une autre. Le XVIIe siècle a été terrible pour la peste à Londres, par exemple, la peste décrite par l'auteur de Robinson. Oui, Daniel Defoe, la grande peste de Londres, et pour finir, en ce qui concerne la France, la grande peste de Marseille, qui est toujours la même. C'est toujours la même pandémie de 1720, qui a fait 50 000 morts, enfin la moitié de la ville, le mur de Provence. Tout ça, c'est la fin de la grande pandémie, et elle n'est pas moins tendre avec les hommes.
Sauf
donc,
ce
n'est pas 1348 la peste, c'est 4 siècles.
Les chiffres sont quand même spécifiquement terrifiants
oui.
En ce qui concerne les
un
débuts.
Un tiers des hommes.
Un tiers. Avec une géographie très, 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 très surprenante. Certains villages sont complètement ravagés et d'autres épargnés. Il y a une
ça dépend
géographie
de
la peste qui est parfois difficile à expliquer.
Si on avait le cheminement du rat et le cheminement des hommes, on pourrait l'expliquer facilement. Si pendant ces 5 premières années, bon, c'était pas comme aujourd'hui où toutes les routes sont et tous les sentiers sont, on peut pas en prendre un sans croiser une voiture, un vélo, une moto, un camion. Toutes les routes n'étaient pas surchargées d'hommes, donc en fait elle s'est déplacée sur les axes majeurs, fluviaux, terrestres, et puis s'il y avait un petit village écarté où personne n'était venu depuis 2 mois, eh bien à ce moment-là, les rats du village n'étaient pas contaminés. Mais à cette époque, depuis le XIe siècle, le Moyen-Âge... l'Occident médiéval est saturé de rats, il n'y a plus un village qui n'en a pas, contrairement à ce qui se passait pendant la peste justinienne, d'où la différence d'expansion. Et il y a peu d'endroits qui ont été épargnés par la grande peste médiévale.
Et voilà le rat qui apparaît dans notre conversation, le rat qui va y jouer un rôle essentiel. Je voudrais donner la parole à Maurice Genevoix, qui dit bien, je crois, avec son talent spécifique, ce que représente cet animal dans l'imaginaire des humains, en tout cas dans sa génération. Écoutez-le.
Dans le palmarès de la Côte d'Amour au Tulle, je vois le rat tout au bas de l'échelle, dégradé, relégué par une réprobation unanime. Je m'y suis d'ailleurs rallié de très bonne heure, mis en condition, comme on dit, par notre folklore domestique, familial. Il y avait beaucoup de rats au magasin. Mon oncle avait été bien plus petit encore, la tendre victime d'un rat. J'ai entendu, très petit moi-même, cet horrible et passionnant récit. Maintes fois, et sans variante, dans une version assez tragique pour être définitive. Il était dans son petit berceau. Il se plaignait tout doucement, comme ça. À ce point juste, ma grand-mère vagissait. J'ai pensé, le voilà qui rêve, ce chérubin. Et je n'ai pas bougé, pauvre de moi. Heureusement, il commençait à parler un peu. Il était avancé pour son âge. Et il a dit, toujours sans crier, d'une toute petite voix plaintive, « Bobo, Bobo !» Ou alors, je n'ai fait qu'un bond, j'ai sauté du lit, j'ai couru. « Ouh, Bobo, pauvre bonhomme !» Et lui, de sa même petite voix, « Peut-on, peut-on ?» J'ai fait voler ses couvertures, et alors ? C'était l'instant des yeux écarquillés, du cœur battant. « Alors, grand-mère, un rat » criait-elle tout à coup. « Un énorme rat noir qui m'a sauté droit au visage. Un rat, écoute-moi bien, qui lui avait mangé le pied. » Tout le pied, seulement le gros doigt, tout entier, seulement le petit bout pour y goûter. Elle soupirait, souriait, soupirait de nouveau. Mais imagine que je n'ai point couru. Et enfin, avec dégoût, sale bête. Sale bête, les surmulots hirsutes, d'un brun jaunâtre et souillé, que nous ferions dans les cours du lycée, à travers les grilles des égouts.
Maurice Genevoix, le 26 juin 1951, sale bête, est-ce que le rat a toujours eu cette place tout en bas, comme le dit Maurice Genevoix, de l'échelle du dégoût pour les humains?
Non. Au Moyen-Âge, en réalité, il n'intéressait personne. C'est très difficile de trouver des représentations de rats, par exemple. Il intéressait beaucoup moins que le loup. Mais le rat, en plus... Je ne vais pas spécialement le défendre, mais donc on dit responsable de la peste, qui est un raccourci. En fait, il est victime de la peste.
Défendez-le si vous voulez, je ne suis pas choqué. Défendez le rat.
D'abord, il a peur de l'homme, à juste titre. Je ne crois pas qu'il y ait d'animaux qui ne craignent pas l'homme, sauf le phacochère et l'ours blanc. Alors ici, il parle du surmulot, hein. À la fin, on entend ça. Le surmulot, ce n'est pas le rat du Moyen-Âge, hein. C'est le rat d'aujourd'hui, qui est arrivé en 1720, en franchissant la Volga, et qu'on appelle le rat brun, le rat surmulot, Rattus norvegicus, qui n'est pas le même que le rat noir qui infestait l'Occident médiéval. Et comme c'est un rat, enfin bon, c'est pas tellement le sujet, mais c'est un rat qui a, parce qu'il est mieux adapté à l'eau et qu'il a moins peur de l'homme et qu'il est un peu plus prolifique, il a rapidement, pendant le 18e et le 19e siècle, réduit les territoires du rat noir qu'on ne trouve plus que à la campagne ou dans quelques niches où il s'est réfugié. Donc maintenant, c'est le surmulot qui a tout envahi. Il est un peu plus puissant. En ce qui concerne la peste, ça ne change rien pour nous.
Nous reviendrons tout à l'heure au rôle du rat.
Mais le rat, voilà, c'est d'abord... Bon,
il faut qu'on le place
un peu moins, mais il fuit l'homme. Il a peur de l'homme, à juste titre. Donc il attaque l'homme s'il est acculé. Bon, comme on dit, on ne coince pas. Mais pareil, pour beaucoup d'animaux, on ne coince pas. Un rat, si vous trouvez un rat dans la cave, il ne faut pas le coincer. Voilà, il faut ressortir, lui laisser les moyens de dégager tout seul. C'est vrai qu'il y a eu des cas d'attaque de nourrissons, parce qu'il n'y a pas tellement de différence faite là entre un morceau de viande, pardon, hein, et un bébé qui ne bouge pas, qui ne peut pas se débattre. Mais le rat ne mange pas l'être humain.
Donc l'oncle de Maurice Genevoix a pu effectivement être... Parce qu'il était
un
nourrisson.
Ah non, c'est tout à fait, c'est arrivé, oui, ça arrive aux nourrissons. Mais un être humain, bon, c'est vrai qu'après, il y a l'histoire de rats qui sautent à la gorge, mais quand on les accule... C'est un réflexe, c'est dangereux. Si vous acculez un rat, bon, faut toujours porter la main. Sa gorge, mais c'est pas un animal attaquant, spécialement attaquant. C'est un animal qui nous fuit, qui est obligé chez nous de vivre dans nos maisons, parce qu'il a trop froid dehors, mais il se tient à une distance prudente.
Je voudrais revenir encore un instant au Moyen-Âge, parce que 1347, c'est le premier cas connu de guerre bactériologique.
C'est vrai.
Dit, on utilise la maladie comme une arme. À Caffa, racontez-nous ça.
À Caffa, on est en Crimée, c'est un comptoir génois à l'époque, donc sur la mer Noire, et il est attaqué par l'armée du Khan, par les Mongols, qui l'assiègent et la peste, à ce moment-là, on est en 1347, la peste ravage les rangs de. Ça les étonne beaucoup, on a oublié hein, depuis le 8e siècle que cette maladie existait. Donc c'est une terreur inédite qui vraiment plonge les gens dans la stupeur. Plus tard, après, on savait la reconnaître à l'avance. Et donc l'armée est dévastée. Et par un instinct bien humain, les assiégeurs ont envoyé, catapulté les cadavres des pestiférés dans... les murs de la ville de Caffa, donc les Génois sont sortis, ils sont morts, et ils ont pris les bateaux, ceux qui ont pu, et ils ont été épidémisés, la peste un peu plus loin.
Ceux qui ne sont pas morts l'ont porté ailleurs. Il y a d'autres cas ultérieurs, mais ce qui frappe quand on vous écoute, c'est qu'il y a un phénomène d'oubli régulier de génération en génération, comme si au bout d'un certain temps s'épuisait le souvenir de la peste, et du coup l'étonnement ressurgit avec plus de force quand elle réapparaît.
Bah, c'est-à-dire que quand même, entre le 8e siècle et le 14e siècle, il s'était écoulé beaucoup de temps.
Hein, en effet.
Et qu'il n'y avait aucune raison qu'entre l'époque précarolingienne et puis la fin du Moyen-Âge, on se souvienne de cette maladie. Donc quand elle a surgi, ça a été un mal nouveau. En réalité, c'est beaucoup plus tard qu'au 20e siècle, qu'on a repris toutes les données épidémiologiques du Moyen-Âge. Mais c'était ressenti comme une nouveauté absolue. Et quand elle est arrivée à Paris en 1920, on se souvenait si peu qu'on n'a même pas fait le diagnostic. Les gens qui l'avaient n'ont pas fait le diagnostic immédiatement.
Le cas de Marseille que vous évoquez tout à l'heure avant, donc, 1720, deux siècles avant l'épisode des chiffonniers de 1920 à Paris. 1720 est très, très frappant. Vous évoquez le mur de la peste. C'est vrai que c'est la première fois où on a le sentiment que l'État se mêle très directement de ses affaires. Il vient avec une grande vigueur, c'est ce que vous dites dans votre livre, une grande vigueur se mêler de ces choses et s'efforcer de combattre l'épidémie.
En ce qui concerne Marseille, puisque Marseille, on dit souvent Marseille 1720, la grande peste de Marseille. Marseille, c'était un des grands ports d'entrée de la peste. Hein, donc c'est une ville qui a été ravagée forcément, puisqu'elle arrivait toujours chez nous.
C'est un bateau qui arrivait de Saïda avec des
de Cyrédou, Damas avec des textiles. C'est le grand Saint-Antoine. Mais des bateaux qui sont arrivés sur Marseille chargés de peste, il y en a eu des dizaines et des dizaines. Marseille a été sans arrêt ravagée par la peste depuis 1348.
Pourquoi cet événement a-t-il été particulièrement dramatique?
Parce que cette fois-ci, elle a tué la moitié de la population, ce qui est un taux exceptionnel. Généralement, en ville, il y a une mortalité d'environ 25-27% de la population. Souvent en campagne, 8 à 12%. Ça dépend de la densité des rats et de leur puce. Parce qu'une fois de plus, donc, c'est la puce du rat qui est la responsable, mais pas le rat.
Nous allons y venir plus comme en nous. Détail. Nous allons y venir.
Et donc, en 1720, c'est vrai qu'on construit pour la première fois ce mur. Mais l'idée d'emmurer, en fait, les populations atteintes n'est pas neuve. Par exemple, ça s'est produit avant dans la ville de Digne, où ça a été un massacre parce que Digne avait ses propres remparts. Donc des soldats sont postés à l'extérieur. Et puis toute personne qui essayait de franchir le mur était abattue, point barre. Donc ce qu'on appelle une quarantaine vigoureuse. Et l'idée de la quarantaine, elle n'est pas neuve. Mais le grand Saint-Antoine avait été mis en quarantaine. Porteur de peste, on le savait quand il est arrivé dans la rade de Marseille. C'est toujours l'argent qui a fait fuir nuitamment, les cargaisons de soie étaient si précieuses, nuitamment, des chaloupes ont été rejoindre le grand Saint-Antoine et ont emporté les cargaisons de tissus. Là encore, méconnaissance du processus épidémiologie, ils sont revenus avec les tissus, et dans les tissus, il y avait les puces de la peste, et non pas les rats. Et c'est comme ça que bien que le bateau soit resté sagement dans la rade, la peste est sortie de ses flancs, mais toujours et partout, même quand l'État prenait des mesures depuis longtemps, parce qu'on avait quand même compris, à partir du XVIe siècle, on comprend quand même qu'il y a deux théories, les aéristes et les contagionnistes, on avait quand même compris que le contact était dramatique en cas de peste, donc on essayait d'interdire les rassemblements. Justement, les gens avaient tendance à vouloir faire des grandes messes, des défilés, des prières, et c'était une catastrophe. Donc les échevins, les municipalités, l'État essayaient de limiter les rassemblements, de fermer les dépôts de tissus, d'empêcher les transports de tissus, de hardes, de tout ce qu'ils transportaient d'après les observations de terrain. Je veux dire, ils comprenaient pas pourquoi, mais ils voyaient bien qu'un chargement de tissus avait infecté une cité, par exemple. Mais il y avait toujours l'argent. Et l'État y était aussi sensible qu'aujourd'hui.
Alors vous introduisez là, Frédéric Audouin-Rousseau, le regard social, la question de l'argent, donc des relations entre les classes sociales, les riches et les pauvres qui sont inégalement affectés. Je vais vous faire entendre un extrait du film fameux de Maurice Cloche qui s'appelle Monsieur Vincent, 1947, avec Pierre Fresnay dans le rôle de Vincent de Paul. Ça se passe au XVIIe siècle. Et vous allez voir le choc psychologique et moral entre le héros et un petit groupe de bourgeois et d'aristocrates qui ne songent qu'à s'amuser et à se protéger, au mépris en particulier d'une malheureuse infectée.
Chevalier, soyez discret.
Mais puisque nous allons tous mourir, ma chère âme.
J'espère que nous tiendrons encore un petit peu. Écoutez mon mari dans la salle.
Il mourra sûrement le premier, ma chère. Et puis ça n'est pas tous les jours la peste.
Vous avez un cœur de peste?
Qui?
Oh, une femme du vieux quartier. On l'a murée chez elle avec ce qu'elle possède. Quand elle sera morte, on brûlera le tout. Et grâce au ciel, nous en serons quittes pour quelques jours de musique entre bons amis. Un peu de poulet, vous ne mangez rien.
Depuis quand a-t-on enfermé cette femme?
Depuis 3 jours.
Il faut avoir un peu de patience, monsieur. Il y en a qui mettent 8 à 10 jours à mourir. Vous devriez vous mettre au vilboquet, rien de tel pour faire passer le temps.
Il faut faire quelque chose.
Oh, il faut bien manger, boire, danser, être gai. C'est le seul remède connu.
Où habite cette femme?
Quelle femme?
La pestiférée.
Pourquoi, monsieur?
Excusez-moi, monsieur, je vous allais la voir.
Vous ne savez pas ce que vous dites, monsieur. Il saurait être question de vous exposer inutilement à la contagion. Non, d'ailleurs, votre appartement est près ici. Vous devez être là, le plus sage est de monter pour poser.
De toute façon, monsieur, je n'habiterai pas ici. Je suis curé de Châtillon, j'habiterai le presbytère.
Alors ça, cher monsieur de Paul, vous vous faites d'étranges idées sur les commodités de cette bâtisse. Il y a 10 ans que les curés de Châtillon y ont renoncé.
J'y habiterai quand même. Faites-moi donner mes affaires, s'il vous plaît, monsieur. Et indiquez-moi la maison de cette femme.
Un monsieur trêve de rire. Nous serions ravis de vous garder parmi nous. Mais si vous sortez de cette maison ce soir, je vous avertis que je ne pourrai plus vous y recevoir.
Excusez-moi, monsieur, mais j'y compte bien. Apporte-moi mon baluchon. Et toi, dis-moi où habite cette femme qui est malade. Je suis ton curé, je t'interroge, je réponds.
La petite maison, avec les feux dedans.
Je te remercie.
Admirons le parler de Pierre Freinet, Frédéric Audouin-Rouzeau, et restituons cette ambiance particulière qu'on retrouve à chaque épidémie, en tout cas dans les périodes modernes qu'on connaît mieux.
Cette joie-là, cette joie quelque chose n'est pas choquante, elle a... C'est un réflexe qu'on a toujours constaté aux grandes dames de l'Église. À chaque épidémie, plus elles étaient violentes, plus c'était puissant. C'est-à-dire une explosion de fêtes, de joie, de danse, de transgression.
On s'étourdit.
De transgression sexuelle, d'explosion de mariage. Les gens se remariaient. Le conjoint était mort 2 jours avant. La femme, le mari se remariait 2 jours après. Il refaisait des enfants tout de suite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pardon pour la comparaison, on est exactement comme les puces quand elles se trouvent par exemple en danger, qu'elles ont perdu leurs hôtes. Elles se multiplient énormément pour assurer la préservation de l'espèce.
Je vous en prie, vous êtes libre de toutes les comparaisons que vous souhaitez développer.
Non, mais je ne veux pas quand même nous ravaler au rang de la puce. Mais il y avait un réflexe de transgression, de profiter de la vie, du carpe diem. C'est toujours ça de pris aujourd'hui, de fête. Il y a eu une débauche incroyable. Sexuelle dans les rues, dans les fêtes, et de mariage et de tout le monde couchait avec tout le monde pour exagérer un peu les choses et ça débordait
bacchanal,
l'église.
Bacchanal
de la peste, les fameuses danses des morts, etc. Pour à la fois évidemment lutter psychologiquement contre le mal et maintenir la préservation de l'espèce. Les mariages se refaisaient dans la semaine, réellement. En même temps qu'il y a ce débordement de joie et de terreur. Qui sont simultanées. Il y a là, ce que montre très bien cet extrait magnifique, il y a la cruauté horrible de ces temps, qui va avec cette joie immédiate. On saisit le jour, l'instant, et puis basta pour les autres. Et c'est, mais on ne pourrait pas compter les milliards. À chaque fois qu'il y avait une famille infectée, les autres peignaient sur leur porte une croix, un signe, etc. On les enfermait. On n'allait pas jusqu'à brûler la maison. On les enfermait et on attendait que ça se termine là-dedans. Voilà, ça s'est fait à Londres, ça s'est fait à Paris, ça s'est fait partout. Ça s'est fait au niveau des cités, quand on enfermait la cité entière avec des personnes saines dedans. Mais dès qu'il y avait une maison atteinte, on la bloquait et les gens ne pouvaient pas en sortir.
Eh bien, nous voilà prévenus. Si jamais l'épidémie de grippe aviaire, dont vous avez l'air de penser qu'elle est loin d'être exclue, nous touchait.
C'est pour ça que je m'occupe beaucoup, avec beaucoup d'intérêt, des moyens d'éviter une contamination homme-homme dans la grippe aviaire.
C'est pour éviter les bacchanales ?
Non, c'est pour éviter la rupture des liens, voilà. Pour éviter que l'autre devienne un ennemi, que l'autre devienne un objet de terreur, de haine. Et ça se fait. Au début, il y a une sorte de solidarité, la première journée. Le deuxième jour, ça flanche. Le troisième jour, on jette les malades par les fenêtres.
Donc l'archéozoologue que vous êtes, Frédéric Audouin-Rouzeau, se préoccupe de faire servir cette expérience aussi pour aujourd'hui et pour demain.
Oui. Entre grippe aviaire et peste, il y a un lien, non pas dans le mode d'épidémisation, puisque c'est pas là la puce du rat. C'est dommage, sinon là, on avait des solutions qui transmettraient la grippe aviaire, mais c'est notre souffle, donc comme nos souffles et nos mains sur nous-mêmes, ramassant l'aérosol un peu partout, sur les tables, les poignées de porte, les rampes, etc. Pour la peste pulmonaire, en revanche, c'est exactement le même procédé de transmission, puisque ça se transmet par le souffle, la parole, la toux. Mais ce qui est à redouter le plus dans la grippe aviaire, qui a un taux de mortalité faible, hein, de 2%, qui est quand même pas rien, c'est cette panique, la manière dont le vernis de civilisation, comme on se plaît à le dire, craque en 2-3 jours. Et si une grippe aviaire arrivait, ce qui est probable, il faut absolument éviter la guerre entre les êtres humains, la terreur, l'abandon des membres de la famille, de la voisine en haut, à qui on porte pas les médicaments, pas la nourriture, parce qu'elle a la grippe aviaire, etc. Si on laisse ça se faire, ce qui se fera, si on prend pas des mesures prophylactique pour absolument bloquer ça, ce sera un désastre social et un traumatisme psychologique, affectif, jusqu'au sein même des familles. Ah, écoute, c'est ta mère, hein, moi je prends les enfants, je m'en vais. Des choses qui laissent des souvenirs pendant un bon siècle, et y compris à la personne qui a réalisé l'abandon horrible. Les récits là-dessus sur la peste, culpabilité après des personnes, c'est immense. Donc c'est pour ça que j'ai inventé une cape de protection qui est pas chère, qu'on peut faire soi-même et qui permettrait de au moins rentrer chez quelqu'un, y être pendant une heure, à le soigner sans risquer d'attraper.
Eh bien, nous allons le faire savoir si ça l'est déjà fait à notre ministre de la Santé. Mais cette période-là est aussi celle de tous les fanatismes, toutes les exploitations éventuelles par les prédicateurs plus ou moins illuminés. Une ambiance restituée grâce à Ingmar Bergman, le 7e saut,
1956.
Nous allons tous mourir de la peste noire. Vous tous, stupides troupeaux, et vous qui vous pâmez de fatuité replète, cela est peut-être votre heure dernière. La mort est là dans votre dos. Je vois son crâne luire au soleil, sa faux brille au-dessus de vos têtes. Qui sera le premier? Savez-vous tous, bornés, que vous allez mourir parce que vous êtes condamnés? Entendez-vous le message? Condamnés, condamnés! Seigneur, sois miséricordieux, ne te détourne pas de nous. Prends-nous en compassion pour l'amour de Jésus-Christ.
Alors oui, les fanatismes.
Et oui, mais à chaque... c'est pas spécifiquement lié, évidemment, au temps de la peste. À chaque fois que l'humanité ou une de ses parties subit un choc violent, une terreur, il y a du fanatisme, il y a de l'héroïsme aussi. J'en ai pas parlé tout à l'heure dans l'extrait du film, donc avec Pierre Fresnay, de cet
Vincent.
Homme qui... Il y a deux figures très connues à Marseille, par exemple, qui sont restées, comme l'évêque Belsens et le chevalier Rose. Qui ont continué à inlassablement le chevalier Rose pendant... C'est lui qui a été évacué des tas de cadavres horribles sous le soleil de Marseille, avec les 40 galériens prisonniers qu'on lui avait donnés, qui sont tous morts, sauf lui. Et lui n'a jamais quitté son cheval.
On retrouve les mêmes comportements. On retrouve les mêmes comportements dans l'hussard sur le toit de Giono, même s'il s'agit là du choléra et non pas de la peste.
Absolument. Donc il y a... C'est un peu, parfois... Pourrait-on dire les deux faces, dans cet excès, les deux faces de la même médaille, l'héroïsme et le fanatisme, tous les excès sortent de ces périodes paroxysmiques. Excès, par exemple, dans l'exploitation, mais redoutable, qu'a fait l'Église de la peur, pour que les gens se tiennent tranquilles, pour que les gens ne réclament rien, pour que les gens se contentent de leur sort.
Et ça, vous voyez là une continuité d'âge en âge.
Mais évidemment. Bon, le film de Michael Moore, je crois, sur les États-Unis a assez bien montré comment l'utilisation finalement presque quotidienne de la peur en Amérique, une semaine c'est les abeilles qui vont tous nous tuer, une autre semaine c'est tel microbe, etc., qui finit par rendre des Américains un peuple terrifié quand à New York, on a quand même quelqu'un, on descend aux toilettes du restaurant, quelqu'un, une femme noire, parce que c'est moins grave quand c'est noir, qui nous ouvre le robinet. Ils sont arrivés pour pas qu'on touche le robinet à des degrés de terreur de l'autre qu'on voit dans les procès. On ne se touche plus, ne me touche pas, ne m'embrasse pas. De terreur de l'autre, des microbes, des animaux, de tout. Ça devient presque un peuple autosuicidaire. Et en tout cas, c'est un moyen de calmer, d'enterrer, de pétrifier les mouvements sociaux, les colères. Il n'y a pas mieux que la peur. Il n'y a pas mieux.
Alors ça nous conduit très directement à cette question qui est si prégnante dans le cas de la grippe aviaire, c'est la question de la transmission, l'élucidation du processus de transmission de la peste à la fin du 19e siècle. C'est presque un roman policier avec deux héros, le docteur Yersin et le docteur Paul-Louis Simon. Le docteur Yersin qui était à la fois obscur et honoré, écoutez cette lettre d'hommage du futur maréchal Lyautey à son endroit, une archive de juin 1950. «
Pierre Fromentin et Pierre Ichac vous présentent le magazine de l'Union française.
Qui connaît Alexandre Yersin ? Bien peu de gens. Et pourtant, actuellement, a lieu une décade en son honneur.
Il y a une très grande personnalité qui a également connu le docteur Yersin. Et je crois que vous avez une lettre à ce sujet. C'est celui qui devait devenir le maréchal Lyautey.
Oui, monsieur. Et si vous me le permettez, je vais vous en lire...
Je vous en prie.
...quelques lignes. Je ne puis vous la lire tout entière, puisque le temps nous est mesuré. Je passe tout de suite au corps du sujet. Il écrit... Il y a le docteur Yersin, élève de Pasteur et du docteur Roux. Ce jeune médecin de la marine, il n'a pas 30 ans. S'est voué à la science microbienne et à la recherche spéciale des vaccins, extrêmes orientaux, avec la foi, la volonté et la passion des grands chercheurs. Comme tous ceux qui surgissent, il a trouvé d'abord des montagnes d'obstacles, de doutes et de formalisme. Comme tous ceux qui croient et veulent, les Bernard Palissy et les Napoléons, il les a vaincus. Il les vainc, il les vaincra. Il s'est attelé d'abord aux deux fléaux qui ravagent bêtes et gens de l'Asie, peste bovine et peste humaine dite bubonique. Il s'est installé à Niatran, dans le laboratoire pasteurien, qui va peut-être bien devenir historique. Et ce sont des heures de réconfort qu'on passe dans cet établissement encore rudimentaire avec ce jeune savant sans besoin personnel, uniquement possédé par son œuvre.
Yersin, c'est celui qui, pour la première fois, en 94, à Hong Kong, où sévit la peste, c'est Yersin qui, le premier, isole, identifie et décrit le bacille de la maladie. Donc, un très grand homme dans l'histoire que nous évoquons, Frédéric Audouin-Rousseau.
Très grand. Son nom est pas aussi connu que celui de Pasteur, dont il était l'élève, mais il le mériterait. Non seulement il isole le bacille, mais ça, c'était les théories pasteuriennes, donc... C'est normal que Pasteur soit plus connu, mais il comprend que ce bacille est imbriqué dans le rat. C'est ça qu'il comprend.
Parce qu'il voit qu'il y a des cadavres quand de rats qui jonchent les rues de Hong Kong.
Et alors donc il fait le rapport entre une mort massive d'hommes et une mort massive de ces rongeurs. Et il isole en effet le bacille chez l'homme et il va regarder chez le rat et il le trouve aussi. Donc il fait deux découvertes. Et à partir du moment où on isole le bacille, le pas est immense. Mais c'est pas Alexandre Yersin, si grand soit-il, qui a compris le processus de transmission du rat à l'homme. Il fait le lien. Il pense alors, comme beaucoup de gens, comme presque tout le monde à l'époque, que donc c'est peut-être par les excréments du rat en marchant pieds nus, comme donc le font beaucoup des populations en Inde, etc., par les petites plaies sous la plante des pieds, peut-être par les contacts, excrémentiels, surtout que peut-être ce fait, il l'affirme pas du tout, ce fait la transmission. Et en réalité, c'est son élève, 4 ans plus tard, Paul-Louis Simon, alors lui totalement inconnu, mais un type incroyable du point de vue quand même de imaginatif et de son courage personnel.
Nous allons lui rendre l'hommage qu'il mérite.
Qui trouve la puce.
Parce que le grand débat, c'est de savoir si la contagion passe de l'homme à l'homme, ce que n'exclut pas Yersin, l'inventeur du premier vaccin.
Non, c'est, ouais.
mais, ou bien est-ce que ce qui domine, c'est le passage par l'intermédiaire du rat. Mais alors, il faut un troisième acteur que, pour la première fois, Simon va mettre en lumière, c'est la puce. Et comment est-ce que ça se passe ?
Simon, il a une idée, il fait vraiment une observation de génie. Il s'aperçoit, quand il reçoit des malades qui viennent de déclarer la maladie au premier jour, il s'aperçoit que sur les corps, faut quand même le faire, il y a toujours une petite, ce qu'on appelle une petite flictène précoce, c'est-à-dire un petit point rouge.
Comme une tête d'épingle.
Gros comme une tête d'épingle, parfois entouré d'une petite aréole rosée, qui remarque être toujours située comme si c'était une piqûre sur les zones du corps où la peau est la plus fine.
On connaît où la puce nous pique. Il dit que cette bulle siège très ordinairement non loin de l'extrémité d'un membre à la racine duquel évoluait le bubon, la peste bubonique. On pouvait la rencontrer, dit-il, sur n'importe quelle partie du corps, mais toujours sur le trajet de vaisseaux lymphatiques correspondant à la région du bubon. Et là, il a une espèce
de... Oui, puisqu'après, la peste se transmet en fait par les réseaux lymphatiques. Donc les bubons, ce qu'on appelle buboniques, c'est les ganglions qui... augmente énormément.
À l'aine
à
ou
pas à confondre avec le voilà avec, ou à l'aisselle ou au cou, à pas confondre avec le charbon de la peste qui est en fait l'évolution. La flictène, qu'a remarqué Simon, c'est tout simplement la piqûre de la puce qui a déterminé la maladie à l'origine. et qui est, comme il a dit, la voie d'entrée du bacille. Et ensuite, c'est ce fameux charbon qui a été beaucoup peint, représenté au Moyen-Âge, parce que cette piqûre de puce peut ensuite se nécroser et donner une tache noire sur le corps.
D'où l'idée de peste noire. Ou bien noir, ça veut dire en fait très sombre. Symbolique de l'horreur, plus qu'une coloration des corps.
Oui, c'est à cause du terme peste noire qui a été une erreur d'interprétation d'un adjectif latin. Parce qu'on disait pestis atra, qui voulait dire la peste lugubre, la peste terrible, la peste sombre, et du coup éventuellement la peste sombre au sens de endeuillé, noir au sens de sombre. C'est au 19e siècle qu'est arrivé ce contresens purement linguistique, que du coup un auteur l'a appelé pestis nigra, la peste noire, et qu'ensuite est venue la croyance fantasmatique que les corps des pestiférés étaient noirs. Ils sont pas noirs.
En revanche, charbon, c'est-à-dire le cas qui n'est pas du tout la règle générale d'ailleurs, où cette piqûre de puce dégénère, ça devient noir.
À cet endroit, oui, sur un petit rond.
Mais alors ça pose la question de la transmission d'une maladie de l'animal à l'homme, qui nous concerne tant avec la grippe aviaire.
Je vais juste, parce que vraiment j'admire le travail qu'a fait Paul-Louis Simon.
Ah, nous l'avons pas quitté.
Il remarque sans
le saluer.
Savoir comment il a trouvé la puce, qu'à cette époque, on n'a pas encore l'idée que les insectes trimballent tellement de maladies, justement, entre l'animal et l'homme, alors qu'en fait il y en a des quantités.
On n'est pas encore moustique de la chikungunya, on n'est pas moustique de la chikungunya.
À l'époque, à part pour la fièvre jaune, la maladie du sommeil, on n'est pas. Ça paraîtrait assez loufoque quand même. C'est pas du tout généralisé, c'est pas une idée complètement acceptée comme aujourd'hui cette transmission par les insectes. Donc il est vraiment imaginatif, Simon, de voir cette piqûre de puce. Et ensuite, surtout, de remarquer que les rats, là où on est sûr qu'ils ont le bacille dedans, Alexandre Yersin l'a montré quelques années avant, que les rats, si on les manipule au moment où ils viennent de mourir, on attrape la peste. Si on les manipule 24 heures après leur mort, on n'attrape jamais rien. Et c'est là-dessus que Paul-Louis Simon réfléchit. Je trouve ça génial. Et là, il comprend qu'il met ça en liaison avec la petite piqûre de puce qu'il a vue sur les corps.
Il y a un troisième partenaire.
Qu'il y a un troisième partenaire. Et qu'au moment où le rat est mort, le troisième partenaire invisible est là. Et que 24 heures après sa mort, ce troisième partenaire n'est plus là.
Il a quitté
le cadavre. Pourquoi ? Parce que le rat s'est refroidi et que sa puce l'a quitté pour aller sur les hommes. Et donc c'est comme ça qu'il mène son expérience dans une chambre d'hôtel avec des rats, qu'il isole dans deux cages bien séparées, qui ne peuvent pas se toucher rien, et qu'il obtient une transmission de la peste par les puces du rat. Je trouve ça génial. Et ensuite, cette théorie a été totalement donc travaillée par la Commission des Indes, acceptée, vérifiée, la peste. Après, on a affiné la chose, parce que ce n'est pas la même puce qu'on a sur les rats d'Europe et sur les rats des zones chaudes. Et puis bon, en 1928, l'affaire est dite, c'est la puce du rat, qu'elle s'appelle Nosopsilus fasciatus chez nous, puisque tel est son petit nom, ou qu'elle s'appelle Xenopsella caopis chez eux, là-bas en Inde, où la troisième pandémie dont on n'a pas parlé a fait des ravages. 12 millions de morts quand même, qu'on a un peu oublié entre 1894 et 1920.
Il faut toujours parler un peu latin quand on parle de ces choses.
Ah, c'est curieux.
Grande épidémie. Oui, qu'on confond d'ailleurs à la fin avec la grippe espagnole, à la fin de la guerre de 14-18 un peu.
On n'a pas distingué toujours. On confond les victimes de peste avec... parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Elle revient, la peste, elle revient en Europe. Elle repart, en réalité, elle s'arrête. Donc je vais vous donner le dernier coup bien connu dans l'armée d'Égypte en 1799.
Alors qu'on dit souvent que la Révolution française, en fait, est un moment où la peste est à peu près disparue.
C'est une période où la révolte peut revenir parce qu'on ne nous écrase pas avec la peur de mourir dès le lendemain.
C'est une période systématique. En tout cas, pour en revenir, en 1920, c'est la peste des chiffonniers qui fournit l'argument de votre roman, Part vite et revient à...
C'est la peste de Paris en 1920, ouais, qui fait à peu près 96 victimes
qui
sont passées inaperçues.
Et qui confirme en même temps tout à fait les intuitions de Paul-Louis Simon. Car certains pensent que c'est directement que le rat aurait infecté les hommes. Et en réalité, en particulier en s'appuyant sur l'idée de ces veillées de voisinage qui auraient...
Veillées mortuaires qui auraient
permis la propagation rapide. Tout ça, on s'aperçoit que c'est faux.
C'est vrai que la veillée mortuaire, c'était quand même calamiteux. Les deux théories qui s'opposent, c'est est-ce que c'est la puce de l'homme.
Une enquête policière, je voudrais que vous me résumiez.
J'ai cherché quel était l'assassin, c'est-à-dire est-ce que c'est la puce du rat, quelle que soit son espèce, celle que je vous ai dit tout à l'heure, qui transmet la peste à l'homme, c'est-à-dire de rat à homme à chaque fois, et ensuite parce que la puce du rat accepte d'aller sur l'homme quand elle n'a plus de rat, ou est-ce que c'est la puce de l'homme qui transmet la peste d'homme à homme? Pulex irritans, tel est le nom de notre puce, qui n'aime pas, elle, aller sur le rat. Notre grande malchance dans cette affaire, c'est que la puce du rat aime aller sur l'homme quand elle n'a plus de rat. Et comme les rats meurent de la peste, quand la puce du rat, chez nous, nos obsilus fasciatus, a fait mourir tous ses rats, ou à peu près,
elle s'en prend à
l'homme. Faim. Et dans ce cas-là, elle change d'hôte, comme on dit, et elle va sur l'homme. Et là, elle nous transmet la peste qu'elle a pompée, le bacille qu'elle a pompé dans le sang du rat. Mais des années 1940 jusqu'à nos jours, la théorie de la transmission par la puce de l'homme, qui a été publiée en 1941, qui a eu un énorme succès, qui était fondée sur des expériences de laboratoire par Blanc et Balthazar. J'ai mis quand même des mois à trouver la faille. Je l'ai trouvée, bon, parce qu'ils ont prouvé, ils ont eu des cas de transmission. En fait, ils ont pollué complètement les expériences avec les excréments des puces. En fait, tout ce qu'ils ont obtenu, c'est ce qu'on appelle une transmission mécanique de masse. Bon, c'est sûr que si vous mettez 30 puces infectées dont la trompe est salie par le bacille, vous mettez 100 puces à la trompe salie par le bacille, vous mettez 100 puces à piquer sur un petit cobaye, ça, il va pas, c'est suffisant. Mais c'est pas une transmission. La transmission biologique de la puce du rat, c'est une transmission comme une seringue hypodermique. C'est pas parce qu'elle a la trompe salie par le sang. C'est parce qu'elle avale le sang sur le rat ou sur un homme au stade agonique, parce que la septicémie est très tardive chez l'homme, elle l'avale. Mais en réalité, la puce est malade aussi.
Donc c'est le dernier sursaut de l'interprétation erronée de la dominance éventuelle d'une transmission de l'homme à l'homme.
Voilà, j'y tiens. En fait, ça se transmet de l'homme à l'homme par la puce de rat aussi, attention. Mais pas par la puce de l'homme. Or, comme ce n'est pas les mêmes moyens de lutte contre l'une ou l'autre, parce qu'elles n'ont pas le même mode de vie, c'est compliqué le monde des puces, en fait.
Nous n'en doutons pas désormais.
Eh bien, effectivement, pour lutter contre la peste, si on se met à lutter contre la puce de l'homme, on fait une grave erreur. Donc, il faut lutter en amont contre les rats pour éviter l'entrée des puces de rats dans l'habitat humain.
Dans cette génération de médecins, cette préoccupation restait vive à propos de cette affaire, et notamment chez les médecins des colonies. Écoutez celui-ci qui raconte ses expériences des années 30 en 1952, Jean Périgaud.
Est-ce qu'il y a encore de la peste en Afrique occidentale?
Eh bien, la peste, quand il y en a, éclate au Sénégal vers le 15 mars. Lorsque je m'y trouvais en 1930, par exemple, on constate à 2251 cas de peste avec 1358 décès. C'est-à-dire énorme. Eh bien, les derniers cas de peste remontent à 1945. Depuis, plus rien, plus un seul cas. On est arrivé à ce résultat en désinfectant très largement les nids de rats pesteux avec du DTT. Car vous savez que la peste est véhiculée par la puce du rat. Je me souviens de l'époque où l'administration, un peu naïve, installait des pièges à puces dans les villages pesteux. Des assiettes blanches avec de l'eau sur quoi flottait une couche d'huile. Au centre, une mèche de veilleuse qu'on allumait. Attirée par la flamme et la couleur blanche, la puce devait se suicider. Théoriquement, évidemment. C'était en 30, 31 et 32. On payait aussi la queue de rat, 0,50 francs et 1 franc, suivant la taille, aux chasseurs de Dakar qui, en fin de compte, s'étaient mis à faire l'élevage de ces sales bêtes. J'estime qu'en 20 ans, on a dû faire quelques progrès.
Et la queue de rat qu'on achète, ça peut d'ailleurs être dangereux, parce qu'on peut éventuellement élever des rats pour vendre leur queue.
Et puis ça va vite de la reproduction des rats, donc c'est rentable, donc c'est pareil, là, l'argent s'en mêle, il vaut mieux pas faire ce système. Il critique l'histoire de l'assiette blanche et de la flamme, c'est un piège très efficace pour attirer les puces, c'est comme ça qu'on les récolte dans les maisons, parce qu'elles sont sensibles à la chaleur, et elles sont sensibles à cette assiette blanche, et donc elles plongent dans l'eau, mais en fait ça capte pas toutes les espèces, parce qu'il y a des espèces qui sont sensibles et d'autres beaucoup moins. Non, la meilleure solution, fondamentalement, pour éviter que la puce de rat, puisque la nôtre ne nous transmet pas la peste, là, j'espère que c'est bien passé le message.
Oui, désormais, il n'y aura plus d'inquiétude à cet égard parmi nos auditeurs.
Si la peste revient, comme c'est une maladie, non seulement, comme vous l'avez dit très justement, non éradiquée, mais non éradicable, parce que le bacille de la peste vit à 1 mètre sous terre, donc il est sans arrêt réactivé par les terriers des rongeurs sauvages, les terriers profonds, c'est comme ça qu'elle ressort. Par les terriers profonds, par les rongeurs sauvages, qui la communiquent par leurs propres espèces de puces aux rongeurs domestiques, qui, les rats par exemple, qui eux-mêmes communiquent à l'homme en commensalité. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, on ne peut pas s'en sortir de la peste.
Donc on n'aura jamais fini.
Non, on n'aura jamais fini. Si la troisième pandémie a été si légère en fait, parce qu'elle est revenue dans tous les ports d'Europe entre 1900 et 1920 avec la même violence, mais elle a fait à chaque fois qu'une centaine de victimes. Mais c'est parce qu'il y avait un bacille mutant de la peste, qui est la pseudo-tuberculose, qui s'était développée, avait atteint les rats et l'homme, qu'on a souvent trouvé dans des opérations de l'appendicite, un bubon mésentrix près de l'intestin, qui est une peste, mais qui immunise contre la peste.
Le danger demeure, d'ailleurs, il arrive que parfois il y ait des accidents. Nos auditeurs fidèles connaissent notre générique avec un extrait évoquant le cas d'un savant qui avait subi la contagion de la peste. Pour une fois, en cadeau, je vais vous donner l'entièreté de l'archive. 3 août 1962, Interactualité.
Un communiqué du ministère de la Guerre a jeté cet après-midi la consternation dans l'opinion britannique. Ce communiqué, le voici. Monsieur Jeffrey Bacon, savant employé au centre de recherche microbiologique de Porton, décédé mercredi, est mort de la Pastorella pestis, ou peste pulmonaire. Ce qui revient à dire que le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge, et déjà, outre l'enquête du ministère de la Guerre, une enquête judiciaire a été ouverte à la diligence du coroner qui, ce soir, a donné sa décision. D'importantes mesures de précaution ont d'ores et déjà été prises au centre de recherche biologique. C'est ainsi que de nombreuses personnes ayant pu être en contact avec le défunt ont été isolées, car on craint une épidémie qui pourrait très rapidement s'étendre.
Non, c'est la peste pulmonaire, c'est pas la peste bubonique.
3 jours de maladie, 100% de mortalité. Calamité absolue, mais la peste pulmonaire vient de la peste bubonique. Hein. Elle est pas, c'est pas une génération spontanée, c'est-à-dire que la peste, elle est bubonique, c'est-à-dire elle suit les trajets lymphatiques, mais il arrive assez souvent que le malade présente un abcès au poumon qui ensuite fait entrer le bacille de la peste dans ses poumons, donc dans son souffle. Et là, la peste va se transmettre exactement comme la grippe aviaire, enfin comme la grippe tout court, comme le rhume, par notre aérosol qu'on projette en parlant,
de l'homme à l'homme,
d'homme à homme, strictement sans aucune puce.
Donc puisque vous évoquez la grippe aviaire, revenons à cette actualité qui demeure préoccupante.
Très.
Frédéric Audouin-Rouzeau, il peut y avoir transmission d'homme à homme, mais la curiosité se porte, pour l'heure, curiosité inquiète, principalement sur la transmission de la volaille à l'homme. Quels sont les points communs avec l'histoire que nous venons d'évoquer? Et quelles sont les différences éventuelles?
La différence, c'est que pour le moment, elle n'est pas épidémique, parce qu'en effet, elle se transmet la grippe aviaire de la volaille ou d'un autre oiseau, hein, enfin bon, d'un cygne qui n'est pas de la volaille, à l'homme. Mais comme c'est une anadémie, c'est-à-dire que c'est le même principe que la rage, par exemple. Bon, si on se fait mordre par un renard qui a la rage, voilà, on attrape la rage. Mais nous, on la transmet pas dans notre famille. Hein, c'est des transmissions ponctuelles. La différence avec la peste, malheureusement, c'est que puisque l'homme devenait capable, était un autre très accepté par la puce de rat qui n'avait plus de rat parce qu'ils étaient morts, du coup, c'est une transmission d'homme à homme par la puce de rat. Puisqu'on avait sur nous autant de puces d'hommes, mais des puces de rats en grande quantité qui s'infectaient sur les rats et revenaient sur nous, etc. Donc c'est pour ça que ça a pu s'épidémiser. Là, on n'a pas, dans le cas, heureusement, de la volaille, une puce, par exemple, qui nous transmet, qui vient sur nous et nous transmet sa grippe aviaire.
Mais comment est-ce que ça risque
de se
passer?
C'est une anadémie pour le moment. C'est pas une épidémie. Le risque, là, il est de transmission homme-homme, il est très différent. Il va être tout simplement par une mutation très attendue, pas au sens de espérer, mais très attendue,
prévisible.
Malheureusement, une mutation du bacille qui, pour le moment, encore est bien adaptée aux oiseaux et qui va s'adapter peut-être via le porc, ce qui est souvent sa voie de passage dans les eaux, via le porc ou pas, aux voies supérieures respiratoires humaines. Il lui manque quelques petits ajustements génétiques biomoléculaires pour devenir un virus qui peut se développer non seulement dans les voies supérieures des oiseaux, mais dans les nôtres. Et c'est le chemin que ce virus est en train de faire, comme il l'a fait avant 1918, avant d'exploser en ce qu'on a appelé la grippe espagnole, qui n'était rien d'autre qu'une grippe aviaire qui a muté et est arrivée chez l'homme. Et ces grippes-là sont des grippes hautement pathogènes, comme les journalistes se plaisent beaucoup à répéter cette nouvelle expression, la H5N1 hautement pathogène, et c'est vrai.
Et il y a d'ailleurs eu des centaines de milliers de morts de la grippe espagnole, et pas seulement Guillaume Apollinaire.
Il y a eu plus de morts par la grippe aviaire, la grippe aviaire de 18 que par la Grande Guerre.
Dont Apollinaire et Rostand, mais ce sont absolument simplement deux individualités, oui.
Elle a fait plus de morts, ce qu'on appelle les morts discrets, entre guillemets, mais ça a été terrible, cette grippe dite espagnole. Et donc, c'est comme ça d'ailleurs que la peste, on a su que la peste était là en 1920, mais les autorités, comme elle n'était pas très visible, les autorités n'ont pas fait de publicité là-dessus et l'ont cachée. On l'appelait au Sénat la maladie numéro 9 pour ne pas dire son nom, comme disait La Fontaine, et pour ne pas affoler les populations. Et donc, cette grippe aviaire, c'est un cycle. Tous les 80 ans, 100 ans, il y a une mutation d'un virus de grippe d'oiseau qui passe chez l'homme. 1918-2008, il est possible, il est très probable que le virus fasse son chemin. Donc, comme pour la peste, où c'est très important d'avoir une vision très très détaillée du processus de transmission, parce qu'on peut se dire, tiens, s'il y a la peste, je me couvre avec de l'odeur de cheval. Et je n'attrape pas la peste parce que la puce du rat ne supporte pas le cheval.
Ou de l'huile éventuellement.
Ou je m'enduis d'huile parce que ça va boucher les trompes des puces. Petit détail qu'on ne peut trouver que si on a foncé dans les détails des détails de l'épidémio. Pour une grippe, c'est compliqué.
Que de bons conseils.
On peut l'attraper par le souffle ou par les mains, après en se le mettant le doigt dans la bouche, dans le nez, etc. Et donc, il faut lutter contre les deux moyens d'entrée de la grippe aviaire. Par le souffle et par les mains, et je pense qu'il y a des moyens modestes et efficaces, peut-être un peu ridicules en aspect, mais le ridicule ne tue pas, contrairement à cette grippe.
Voilà. Eh bien, Frédéric Rousseau, c'est la première fois, dans une émission qui dure depuis bientôt 10 ans, qu'une de mes invitées, à la fois excellente historienne, de surcroît prescrit un certain nombre de comportements à nos auditeurs. Je suis sûr qu'ils vous en seront extrêmement reconnaissants.
Vous aviez parlé de solutions au début de l'émission. Pas seulement faire peur, est-ce qu'il y a des solutions? Donc moi, comme tout bon auteur de roman policier, je termine jamais une histoire sans donner la solution.
Eh bien, je vous en sais gré. Merci pour celle-ci. Je n'attendais pas moins de vous, de Frédéric Audouin-Rousseau et de Fred Vargas, puisque c'est la même personne. Frédéric Audouin-Rousseau a signé Les chemins de la peste, Le rat, la puce et l'homme, qui est réédité il y a quelques mois dans la collection Texto, qui est dirigée par Jean-Claude Silberstein. C'est un livre qui est par conséquent en format de poche, tout à fait accessible, pour 12 euros.
Tout à fait accessible pour 12 euros, ça économise tous les somnifères, c'est impeccable à lire le soir dans son lit.
On peut aussi préférer lire Fred Vargas, c'est-à-dire l'autre facette.
C'est moins facile pour s'endormir. Voilà.
Personnalité. Et le livre qui est le plus proche des sujets, parmi beaucoup d'autres ouvrages à succès que vous avez signé, le livre qui est le plus proche des questions que nous avons évoquées aujourd'hui, c'est Pars vite et reviens tard, qui est de 2001, sauf erreur.
Je crois.
Et que Nora Givernier a fait un film.
Oui, c'est vrai. Mais Pars vite et reviens tard, voilà, ça je l'ai tiré d'un... C'est... Au Moyen-Âge, on disait finalement le seul remède, c'est sitôt longue et tardée, c'est-à-dire le remède des trois adverbes, on l'appelait. Ce qui voulait dire vite, loin, longtemps. Pars vite, va-t'en loin et reviens tard. Casse-toi, quoi.
La semaine prochaine, toujours en rediffusion, vous pourrez entendre ou réentendre une émission intitulée « Hollywood, le choc des pouvoirs ». Avec Yannick Dehé. C'était Concordance des temps, une émission proposée par Jean-Noël Jeannet, avec Agnès Chauveau, avec Meryl Moneghetti, Didier Lagarde à la réalisation, Pascal Dupont à la prise de son, et pour les archivinas, Véronique Jolivet.